VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Plusieurs dizaines de militants d'opposition qui se rendaient aujourd'hui à l'aéroport de Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo pour accueillir leur chef de file ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. L'ordre a été donné par la mairie de Lubumbashi de disperser tout attroupement de plus de 5 personnes, a déclaré à l'AFP le général Paulin Kiungu, le chef de la police de la province du Haut-Katanga, le président du rassemblement à la principale coalition d'opposition, Félix Tshisekedi, était attendu à 13h30 à Lubumbashi, deuxième ville de la RDC. La mission de l'ONU sur place a appelé les autorités à libérer immédiatement des militants d'opposition, 28 selon la police et 48 selon leur parti, arrêtés la veille alors qu'ils participaient à une réunion privée au siège local du parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu demain mardi en Centrafrique, où les violences ont redoublé dans les provinces et le mandat des casques bleus de la MINUSCA doit être renouvelé. Le point avec Idriss Fall.
Ancien patron du HCR, Antonio Guterres, s'est déjà rendu en Centrafrique. Cette visite sera sa première à une mission de maintien de la paix depuis sa prise de fonction en janvier. Le secrétaire général de l'ONU arrive dans un contexte sécuritaire tendu. Bangui, la capitale, est relativement calme, mais ces dernières semaines, les affrontements à répétition ont eu lieu vers Bambari, Bria et Bangassou, faisant des centaines de morts. Rien qu'à Bangassou, où doit se rendre M. Guterres, 12 casques bleus ont été tués depuis le début de l'année. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité, le patron de l'ONU a demandé l'envoi de 900 soldats supplémentaires. Le mandat de la MINUSCA avec ses quelques 10 000 casques bleus doit s'achever le 15 novembre et devrait être renouvelé. La mission onusienne est accusée de passivité et même de collusion avec des groupes armés et subit dans le même temps une avalanche d'accusations d'agressions sexuelles.
Les deux principaux leaders de la rébellion des forces populaires du Burundi, FPP, ont été arrêtés samedi dans l'est de la Tanzanie, a annoncé leur mouvement dans un communiqué. Les numéros 1 et 2, Jérémy Ntirhanyebagira et Edouard Nshimirama, a été arrêté par les forces de l'ordre de Tanzanie et du Burundi. Ils ont été irrégulièrement extradés le 22 octobre vers le Burundi, où leurs vies sont en danger, indique le communiqué sans donner de détails sur les circonstances de ces arrestations. Au Tchad, les magistrats ont reconduit leur mouvement de grève sèche dans toutes les juridictions du pays pour une semaine à compter de ce lundi. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail et surtout le renouvellement du bureau du Conseil supérieur de la magistrature dont le mandat est arrivé à terme. Le point avec André Côte-Maginga.
Cette grève pénalise non seulement les prévenus et détenus des geôles, des brigades et commissariats, mais les justiciables qui traînent dans les couloirs du palais de la justice de N'Djamena.
Un citoyen qui a un problème au niveau de justice, qui t'attend presque 3 mois, 4 mois, parfois, quand tu viens, il n'y a pas les jugements. Aujourd'hui, tant que tu quittes de la maison ici, c'est avec les dépenses. Tu viens ici, encore il n'y a rien, tu vas passer toute la journée et puis tout ça, alors que c'est déplorable.
Je suis venu du Niger, on a un problème d'héritage, c'est à cause de ce venu aux justices, parce que mes frères sont refusés. Maintenant, j'ai été à la justice, on m'a dit que lundi, il y a un grave. Vraiment, je demande au gouvernement de tout faire pour négocier avec eux, pour le bien de la population. Par exemple, moi qui est venu de l'extérieur, j'ai laissé ma famille là-bas. Donc, vraiment, ça me gêne.
Le président du syndicat des magistrats du Tchad, Alarakete Sanengara, en est conscient, mais il évoque le caractère légitime de ce mouvement de grève.
Bien que vous nous voyez dehors, nous sommes plus en prison qu'eux. Avec quelle conscience le magistrat peut rendre une décision qui puisse aider celui-là qui est en prison avec ces conditions dans lesquelles il a fait travailler? Nous ne revendiquons que notre tranquillité pour travailler justement pour la justice. Donc la responsabilité ne retombera pas sur les magistrats. Le pays a déjà trop de problèmes, nous ne voulons pas lui en ajouter, mais c'est une personne légitime parce que ce sont les textes qui nous reconnaissent ces droits-là.
Contacté à plusieurs reprises par VOA Afrique, aucun responsable du ministère de la Justice ne souhaite se prononcer sur ce énième débrayage. Les magistrats dénoncent la mauvaise foi des responsables du ministère de tutelle dans l'exécution des instructions du chef de l'État et estiment que le moment viendra où chacun aura le temps de s'expliquer de sa gestion. André Kodmadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Washington, il est 7h05. Au Cameroun, le 21 octobre dernier marquait le premier anniversaire du déraillement d'un train de voyageurs à la gare de Seka, à 130 km de Yaoundé, la capitale. Bilan officiel, 79 morts. Une cérémonie commémorative a été organisée samedi à Seka, où sera érigée une stèle en mémoire des disparus, selon les autorités. Cependant, un an après cette tragédie, certains ayants droit ne cachent pas leur colère. À Yaoundé, retrouvons notre correspondant Emmanuel Jules Nta.
Ma femme était dans ce train qu'on ne voit pas. J'avais cité des noms des gens. Est-ce qu'on a interrogé ces gens-là pour savoir si à travers eux il y a une piste? Si elle est décédée, je ne vois pas comment le corps de mon épouse aurait disparu.
Ces questions de l'avocat camerounais Thomas Dissaké restent sans réponse un an après le déraillement d'un train Camrail à la gare des Eka. Débouté en justice à Douala au travers de son conseil, dans l'affaire contre Camrail et son top management relative à la destination finale de son épouse, Maître Dissaké a refusé de se porter partie civile lors d'un autre procès en cours à Ezeka, mais ne démord pas.
J'ai initié une procédure en référé contre Camrail et les assurances Activa qui ont commis des détectives pour faire des recherches. Ces recherches étant terminées, ils prétendent que c'est confidentiel. J'estime que c'est un peu trop.
L'avocat de Camrail en appelle finalement au bon sens juridique un an après. Maître Serge Zanguet.
Il y a des choses qui doivent être faites également par Maître Dissaké. Le législateur, depuis 1804, avait prévu qu'il peut y avoir des hypothèses d'accident au terme desquelles quelqu'un n'est pas trouvé. Or, il faut suivre un canevas juridique pour aboutir à cette solution.
Le 21 octobre 2017, un office interreligieux a été organisé à la gare des Eka. Le président du conseil d'administration de Camrail a profité de cette cérémonie pour faire le point sur les indemnisations des victimes et la prise en charge des blessés depuis le 21 octobre 2016. Abo Aboubakar.
Plus de 1200 dossiers ont été recensés et ouverts par Camrail et ses assureurs dans le cadre du processus d'indemnisation en cours. Les trois quarts ont déjà donné lieu à des avances de fonds pour préjudices sociaux et remboursement des frais médicaux. En ce qui concerne les blessés, nous avons largement franchi la barre de 85% des dossiers dont les rapports ont été définitifs et l'évaluation ont été rendues.
Des informations que certains rescapés et ayant droit vont confirmer.
Camrail nous a pris en charge les médicaments, le traitement, les médecins.
Concernant celle de Camrail, nous sommes tenus par les avocats et la procédure est encore en cours.
Camrail avait promis donner un dédommagement, ils l'ont fait et on attend celui du chef de l'État.
Le 1er novembre prochain, une somme de 1 milliard de francs CFA va être octroyée aux victimes et ayant droit de la catastrophe des Eka. Il s'agit d'un appui financier du président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Au Mali, les ambassadeurs du Conseil de sécurité ont visité hier à Sévaré le poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel à Bamako. La veille, ils avaient exprimé leur impatience face au retard dans l'application de l'accord de paix de 2015. Retour sur l'étape malienne avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Boukoum.
Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont rencontré le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général Didier Dacou.
Nous attendons un appui politique, fondamentalement d'abord une reconnaissance de la force et puis un accompagnement en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de développement capacitaire en quelque sorte, pour que la force puisse répondre de façon efficace aux attentes des pays du G5 Sahel et des populations.
Des populations qui souffrent aujourd'hui de l'insécurité, particulièrement dans les régions centre du Mali. Tata Touré est la présidente des organisations de la société civile de Mopti.
C'est une insécurité infernale. On ne peut plus aller au marché, on ne peut plus voyager, nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. On est fatigué, on est très fatigué.
Un cri de cœur qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. François Delattre, ambassadeur de la France auprès des Nations Unies.
Leur cri de détresse à certains égards est de dire nous avons impérativement besoin de vous pour rétablir des conditions de sécurité décentes dans la région. Et maintenant, c'est à nous d'apporter à la force du G5 Sahel le soutien dont elle a besoin.
En attendant, les populations de la région prennent leur mal en patience. Mamadou Boukouma Mopti pour VOA Afrique.
Jean-Roger Billon à ce micro. Fin de ce journal. Le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.